France Inter.
Bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, Final Fantasy VII. Le jeu vidéo sorti en 1997 est une référence absolument incontournable pour les gamers. Un peu comme Citizen Kane pour les cinéphiles. Personnellement, j'ai toujours pas vu Citizen Kane et je n'ai jamais joué à Final Fantasy. Je sais, c'est un aveu grave dans certains cercles, mais ça tombe bien. Cette émission, c'est justement pour comprendre pourquoi Final Fantasy VII est autant culte, ce qu'il raconte et comment il continue à vivre presque 30 ans plus tard. En deuxième partie d'émission, d'ailleurs, nous aurons la chance d'échanger avec Naoki Hamaguchi, réalisateur de Final Fantasy, le remake qui débarque sur Switch. Et pour commencer la discussion, nous avons deux guides d'exception, Chloé Voitier, journaliste au Figaro, spécialiste du jeu vidéo, on peut le dire ?
Oui, on peut le dire.
Merci d'être là.
Merci à vous.
Et Nathalie, streameuse passionnée, bonjour.
Bonjour.
Voilà, entre nostalgie, storytelling et choc technologique, on va parler d'un jeu qui a marqué plusieurs générations, même ceux qui, comme moi, font semblant d'y avoir joué. C'est parti, pour une heure, à la régulière.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Alors, Final Fantasy, c'est une saga, une série créée en 1987 par Hironobu Sakaguchi, donc chez Square, l'éditeur. C'est, globalement, il y a 200 millions d'exemplaires vendus dans l'histoire de la saga, et plus de 15 millions d'exemplaires vendus pour le Final Fantasy VII, donc il va avoir droit à un remake. Chloé, pourquoi c'est Final Fantasy est autant un monument du jeu vidéo. On dit souvent qu'il a un peu changé la donne, que ça fait partie de ces jeux vraiment qui ont créé une rupture. Pourquoi justement ?
Alors justement parce qu'il a créé une rupture technologique dans, ouais, dans le jeu vidéo. Il faut se remettre un peu dans le contexte. On est en 1997 quand ce jeu sort. Donc à l'époque, Internet à la maison, ça n'existe pas vraiment.
Oui.
On a très peu de téléphones portables. On regarde encore des cassettes VHS pour regarder de la vidéo. On a des télévisions qui font 30 cm.
Oui, même les DVD ne sont pas encore complètement...
Non, ça n'existait pas exactement encore à ce moment-là. Et en fait, on est à deux ans, en 95 est sorti un film où là les gens se sont dit c'est incroyable, les ordinateurs peuvent nous permettre de faire des films d'animation avec des images de synthèse en 3D, donc ce film là c'est Toy Story. Et en fait, Final Fantasy VII va sur cette lignée parce que c'est un jeu dans lequel il y a énormément de séquences en images de synthèse 3D. Et il se présentait un peu comme une sorte de film, en fait. Le jeu commence par une introduction qui dure à peu près 3 minutes, très hollywoodienne, très spectaculaire. Et en fait, c'est le moment où on s'est rendu compte que voilà, le jeu vidéo savait raconter des histoires absolument folles et qui savait embarquer le joueur. Mais là, c'est la mise en scène. Et c'est la mise en scène qui change tout et qui fait que ce jeu, je me souviens à l'époque, quand il est sorti, la communication disait, genre, regardez, c'est un jeu incroyable, il y a une heure de cinématique 3D, c'est plus sur plusieurs CD, c'est comme un film. Donc c'est vraiment ça, en fait, ouais, qui a fait que les gens se sont intéressés à ce jeu.
Nathalie, toi qui es une streameuse, qui joue au jeu, en tout cas, qui aussi fait partie, je pense, des personnes qui contribuent aussi à le maintenir dans la culture aujourd'hui. Ouais. À quel moment toi tu découvres, pas en 97 j'imagine, mais à quel moment tu découvres le jeu ? Ou peut-être d'ailleurs
en 97. Pas loin, non, pas loin. Non, moi en plus, Final Fantasy VII précisément, en fait, je ne l'ai pas découvert en tant que jeu. Moi j'ai commencé par le 10, donc qui est vraiment sorti après. Mais quand j'étais petite, j'ai découvert le film qu'ils ont fait.
Oui, qui sort en 2005 si je ne dis pas de bêtises.
Je crois. Alors ouais, là, je ne suis pas sûre, mais ouais. Et du coup, le film a été tellement incroyable que quand j'ai appris que c'était tiré d'un jeu, là je me suis intéressée au jeu. Et du coup, ouais, en fait, moi, ce qui est vraiment incroyable pour moi, c'est que j'ai vraiment grandi avec les Final Fantasy. Mais le Final Fantasy VII, il est revenu à plein de points différents de ma vie. Quand j'étais petite avec le film, ensuite, il y a la découverte des jeux. Et en fait, il y a eu plein de spin-offs de Final Fantasy VII. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas juste un oui, jeu unique. C'est un jeu qui a entraîné d'autres jeux avec des histoires concentrées sur les personnages secondaires de l'histoire. Et du coup, on a un peu grandi avec ce jeu quand on est de ma génération, parce qu'il y avait un peu des nouveaux chapitre à cette histoire qu'on connaissait déjà, qui permettait de voir un nouvel aspect qui arrivait au fur et à mesure qu'on grandissait, quoi.
Alors justement, Chloé, t'as parlé notamment d'un choc technologique, ouais, à l'époque. Est-ce qu'on peut rentrer plus précisément, justement, qu'est-ce qu'il apporte technologiquement, ce jeu ?
Bah en fait, alors on sortait, c'est l'arrivée de la PlayStation, la console, oui, PlayStation. Donc en fait, c'est l'arrivée des jeux vidéo en 3D. Donc avant, on était sur le jeu vidéo sur Super Nintendo, sur Mega Drive. Voilà, le jeu 3D Mario, Sonic, l'image qu'on, oui, a assez traditionnelle, très enfantin aussi du jeu vidéo. Oui. Et là, en fait, on arrive sur des nouveaux jeux qui visent clairement les adolescents, voire les jeunes adultes. Ouais. On, ch- change totalement de cible. Et on dit, regardez comme c'est impressionnant, voilà, on peut se déplacer en 3D, c'est incroyable, vous avez des images cinématiques. En fait, du coup, l'industrie du jeu vidéo est un peu chamboulée à ce moment-là, parce qu'en fait, on élargit beaucoup la cible. On passe grosso modo des enfants aux adolescents et aux jeunes adultes.
C'est presque Final Fantasy, en tout cas, fait partie des titres qui ont permis justement aux jeux vidéo de ne plus être vus comme un truc de gamin, quoi. C'est un peu comme ça qu'on, dans les années 90 ou même 80, c'était même vendu. C'était des enfants qui jouaient, pas des adultes.
Voilà, c'était un peu vendu comme ça. Et même si on était nombreux à être des très jeunes adolescents à y jouer à l'époque, c'était mon cas à la sortie. C'est vrai que voilà, il y avait un côté jeu plus mature, grosse ambition. Et technologiquement, en fait, c'était aussi un jeu très long, qui dure une bonne cinquantaine d'heures à peu près. Très impressionnant.
Très dur aussi, en plus.
Très impressionnant à l'époque. Techniquement, enfin visuellement, c'était incroyable. Et en fait, ça va rester une marque profonde des Final Fantasy, en tout cas à cette génération-là, de dire on est capable de pousser les consoles au maximum de leur capacité. On va vous offrir les jeux les plus spectaculaires au monde. Ça se passe sur la licence Final Fantasy.
Est-ce que finalement aussi, on parle beaucoup de l'aspect émotionnel dans Final Fantasy, c'est que c'est pas juste un jeu bien fait, c'est pas juste de l'aventure, il y a aussi une forme d'empathie qu'on peut avoir avec les personnages, qui est pas non plus très commun à l'époque dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est pas ça aussi une des clés de la réussite du jeu, c'est le fait qu'on ait autant peut-être d'attachement et d'empathie pour les personnages, que ce soit pas juste des gens cool, mais qu'on ressente quelque chose en jouant au jeu?
C'est exactement ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, quand on prend les Final Fantasy qu'il y a eu avant le 7, c'était, alors pas tous, mais c'était beaucoup des Final Fantasy où le héros n'avait pas vraiment de nom et les personnages étaient juste là pour avoir des gameplay différent, mais ils avaient, ça dépend lesquels, mais ils n'avaient pas forcément une histoire qui était poussée, parce que le but c'était que le joueur se mette à la place du héros. Et à partir du 5, ils ont commencé à mettre plus d'emphase sur les personnages, et dans le 7 c'est vraiment là où ils ont vraiment commencé à se dire qu'effectivement les histoires, ils pouvaient se permettre de nous mettre des grands changements, des drames en fait dans les histoires. En fait, ils ont commencé, comme tu l'as dit, comme les histoires s'adressaient un peu plus aux adolescents, ils ont pu se permettre d'explorer beaucoup plus de thèmes. Il y a vraiment l'amour qui est exploré plus en profondeur que simplement « Oh là là, j'ai un crush et peut-être ça arrivera à la fin au bout de 50 heures ». Non, là, il y a vraiment cette idée de relation, il y a des trahisons, il y a le cœur brisé, il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont assez humains. Il y a la dépression aussi qui est évoquée dans Final Fantasy VII. Vraiment, c'est un jeu qui prend les gens qui y jouent et qui leur raconte une histoire beaucoup plus mature et beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde en tout cas, que ce qu'on pouvait éventuellement donner en se disant « C'est pour des enfants ». Les enfants, ils s'en fichent. Moi, je m'en souviens que quand j'y ai joué la première fois en tant qu'enfant, effectivement, j'ai pas saisi toute la complexité de l'histoire. Moi, j'étais juste en mode, il a une grosse épée, c'est marrant. et après, en fait, en y revenant, après avoir vu le film et tout, en y revenant, c'est vraiment l'histoire. Elle est pas forcément simple. L'histoire est quand même un peu compliquée. C'est une histoire qui est racontée c'est une histoire dense avec beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux. Et en fait, c'est ça que je trouve aussi incroyable, c'est que c'est une histoire du coup qui demande vraiment de l'investissement pour arriver à la comprendre, qui a plein de thèmes, des thèmes qui sont super matures, et clairement je pense que c'est ça aussi qui a marqué. Ça plus le fait qu'il y avait des rebondissements assez fous dans cette histoire. Je veux dire, tuer un personnage, pardon spoiler, mais c'est quand même le
97,
le jeu est sorti, voilà, 97 les gars, mais du coup ouais, tuer un personnage principal dans un jeu vidéo, je crois que c'est la première fois que j'avais vu ça, parce qu'on parle quand même d'un personnage qu'on a entraîné, qu'on a équipé, un personnage en plus qui a un amour et qu'on se dit qui est un personnage préféré de beaucoup de gens, et ça a créé un choc et un traumatisme vraiment dans la communauté, qui manifestement fait partie aussi de la grandeur du jeu, parce que quand on se souvient de ça, on se rend compte à quel point cette histoire, elle est prête à aller loin, et à quel point effectivement on s'était attaché à ce personnage en le voyant partir, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, alors comme je l'ai dit, j'ai pas cette culture Final Fantasy, je suis pas un grand gamer, mais j'ai joué notamment à Last of Us 2, et ce que tu racontes finalement sur le côté la mort d'un personnage extrêmement important, l'empathie qu'on peut avoir, le choc qu'on peut avoir même avec... Moi je l'avais jamais vu avant de jouer à Last of Us 2, mais en fait finalement Final Fantasy 7 abordait déjà ces terrains-là presque 30 ans auparavant en fait. Donc, voilà. D'ailleurs Final Fantasy 7, ça ressemble à ça. Quelle époque !
Oh oui.
On est directement dans quelque chose.
Moi, je vois le jeu juste en entendant le son. Hein.
Ouais. Moi aussi, ça, j'ai tellement entendu cette musique.
Ouais, mais justement, on n'en a pas parlé des musiques, à quel point elles sont incroyables. Encore aujourd'hui, c'est des musiques, mais les musiques du set, ça reste les préférées aussi dans la communauté, tellement elles ont été marquantes. Et il y a des. Bah, grâce au remake, du coup, elles ont eu. Le remix qu'elles méritaient, elles sont encore plus grandioses et vraiment, elles sont ultra marquantes, toutes ces musiques.
Oui, puis elles ont eu droit aussi à des concerts symphoniques
complètement,
qui remplissent les salles partout dans le monde.
Encore aujourd'hui, le thème de Sephiroth, les premières notes, plein de gens reconnaissent.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait... Parce que c'est vrai que moi, quand on parle de Final Fantasy, je pense au 7, effectivement. Et pas à ce qu'il y a eu avant et pas trop non plus à ce qu'il y a eu après. J'ai l'impression que c'est vraiment, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le 7 qui, un peu, qui avale un peu tout le reste. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait sa singularité dans la saga, au-delà bien sûr du choc technologique que tu nous as raconté, Chloé, mais finalement, est-ce que les autres sont moins importants ? Est-ce qu'ils sont oubliés ? Ou est-ce que c'est parce que justement, peut-être qu'ils ont peut-être moins dépassé peut-être le cadre du Japon aussi, les premiers opus ? Enfin, qu'est-ce qui explique qu'on parle quasiment exclusivement, en tout cas, du 7 ?
Alors, le 7, je pense que si on en parle beaucoup, bah, déjà, ce qu'il arrivait au bon moment. Ensuite, c'est aussi le premier Final Fantasy arrivé en Europe. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que nous, Français, on est très, très marqués par ce jeu, parce que c'était la première fois que cette saga arrivait juste dans notre pays, alors qu'elle existait depuis bien plus longtemps au Japon et aux États-Unis.
87, donc 10 ans avant, en fait. Ça
voilà,
10 ans. Que
voilà, 10 ans. Tous les autres jeux n'étaient pas du tout sortis chez nous. Ils sont arrivés plus tard. Et aussi, peut-être aussi une évolution du marché du jeu vidéo, qui fait que aujourd'hui, c'est quoi un jeu marquant, j'allais dire pour la jeune génération d'aujourd'hui, donc ceux qui ont 11 ans aujourd'hui, un jeu marquant, c'est Fortnite. Donc voilà, c'est un jeu en ligne avec qui on joue avec ses copains. Alors que Final Fantasy reste dans sa tradition de un grand jeu narratif qu'on joue tout seul pendant des dizaines d'heures. Donc ça ravit toute une partie de la population de joueurs, notamment les gens qui ont connu ça et qui maintenant ont une trentaine, voire quarantaine, voire cinquantaine d'années, et parlent peut-être un peu moins aux plus jeunes. Mais en tout cas, ce sont quand même des histoires qui restent fortes. Et je pense, évidemment, le 7, c'est celui qui s'est le plus vendu de l'histoire de la saga. Il y en a aussi le 10 aussi, je pense, ça a quand même pas mal marqué. Il est sorti début 2001, je crois. Qui a aussi... là, en fait, il était sorti en même temps que la PlayStation 2.
Ouais.
PlayStation 2, donc pareil, en fait, il embarque une nouvelle génération.
Oui, comme
une nouvelle,
le 7, oui.
Voilà, une nouvelle génération de consoles, encore plus puissante, encore plus belle, tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que oui, bon, depuis, la saga, même s'il y a des nouveaux épisodes, a un peu moins marquante... Parce que d'autres ont pris le relais.
Nathalie ?
Moi, j'allais ajouter que je pense que Final Fantasy VII, il y a vraiment eu un timing... je pense qu'on ne pourrait pas le reproduire, ce genre de succès, parce que le timing a vraiment tout fait. Parce qu'effectivement, 97... Enfin, nous, en Europe, on l'a eu un peu après ou on l'a eu en 97 ?
On l'a eu quelques mois, on a eu 9 mois après la sortie japonaise.
D'accord. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ce n'est pas lui aussi qui a sauvé Square Enix ? Il y a un jeu qui a sauvé Square Enix parce que Square Enix...
C'est le tout premier Final Fantasy.
C'était le premier, Mais du coup, déjà, Final Fantasy, ça a clairement cette aura de jeu qui a un peu sauvé effectivement la boîte Square Enix. Et le 7, pour moi, il y avait vraiment cet aspect que, effectivement, les jeux solo, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur à vendre. Tu vois, les jeux, justement, où tu dois rester seul pendant des heures et tout. Parce que, justement, nous, on a tout à porter. On a l'habitude... En plus, maintenant, il y a même en termes d'habitude des joueurs, on n'a plus l'habitude d'être bloqué et de passer du temps à s'entraîner devant un boss, on est frustré très vite. On n'a pas envie qu'il y ait des problèmes trop durs à résoudre. Il faut que la solution, elle soit évidente très vite. Et ça, c'était plein de trucs qui pouvaient complètement se permettre de se faire au début pour les vieux jeux comme ça qui débutaient sur la 3D. Et en fait, Final Fantasy VII, il avait cet avantage que on avait du temps à côté pour aller regarder la solution. On s'échangeait entre nous les astuces pour battre les boss, etc. Et ça, je pense que ça a beaucoup participé à pourquoi c'est lui qui a autant marqué, parce qu'on avait le temps de pouvoir se permettre de passer autant de temps là-dessus vu qu'on était enfant, encore à l'école, etc. Et vraiment, la génération, en plus, les jeux vidéo, la génération qui joue aux jeux vidéo, c'était vraiment le moment où, effectivement, on était dans l'adolescence pour pouvoir se mettre sur ce jeu-là et être à fond dans l'histoire et dans ce qu'elle propose. Et je pense que les gens qui sont arrivés un petit peu plus tard, ils avaient peut-être moins l'engouement pour les autres Final Fantasy, juste parce que le panel de jeux vidéo disponible, en fait, était beaucoup plus large aussi. Il y a eu de plus en plus de jeux vidéo. À l'époque, Final Fantasy, c'était vraiment le gros RPG, si tu veux passer beaucoup de temps et tout, c'était lui ou Pokémon, mais il n'y avait pas des gros titres comme ça. Là, maintenant, des RPG, donc vraiment des jeux d'action, enfin des jeux de rôle au tour par tour, il y en a énormément. Donc c'est vrai que c'est plus dur maintenant pour les Final Fantasy de tirer leur épingle du jeu, on va dire.
Est-ce qu'on peut dire que les jeux vidéo étaient plus durs avant, globalement?
Oui, ça c'est indéniable.
Enfin, y a pas de discours
après, là-dessus. Mais c'est pas forcément dans le bon sens du terme. Il y a difficile et frustrant. Les jeux vidéo à l'époque étaient extrêmement frustrants. Oui. Des fois, ils étaient mal réalisés. Il faut juste le dire. Des fois, ils étaient mal réalisés parce que
c'est plus dur, ça veut pas dire que c'était mieux.
Voilà, il
y a pas de nostalgie.
C'est ça. C'est un aspect plus. Des fois, c'était un problème technique. Des fois, c'était parce que en fait, il faut se dire aussi que le métier du jeu vidéo, les gens l'ont découvert en le faisant. Et il y a le métier de game designer, c'est vraiment un métier qui s'est appris en se faisant. Et du coup, on s'est retrouvé avec des game designers qui se disent tiens, je vais tester ça dans un jeu. Au lieu de tester ça sur un truc à part, ils ont testé ça dans un jeu qui s'est vendu et nous, on l'a subi. Quoi.
Oui. Bon, nous sommes avec Chloé Voitier et Nathalie pour discuter de Final Fantasy. En deuxième partie d'émission, nous aurons Naoki Hamaguchi pour discuter donc de Final Fantasy et du remake qui arrive. En attendant, on s'écoute Labyrinthe de Feu Chatterton.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle. Celle d'une autre, tu te promènes seule dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte. Reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Feu Chatterton avec Labyrinthe, extrait donc de leur dernier album qui s'appelle lui aussi Labyrinthe.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Nous sommes avec Chloé Voitier et Nathalie pour parler de Final Fantasy, évidemment Final Fantasy VII, mais Final Fantasy plus globalement, qui est, on l'a dit, dans la pop culture, qui continue aussi d'être présent, notamment à travers des personnes comme toi Nathalie, qui stream, qui continue à jouer à Final Fantasy VII.
Du coup, l'idée, c'est vraiment juste de vous déballer tout ce que j'ai pu constater du média et vous laisser vous faire votre propre idée. Et on va commencer tout de suite cette émission avec Final Fantasy XV. Final Fantasy XV est sorti le 29 novembre 2016, après 10 ans de développement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait pas mal de bruit. Entre ceux qui crient au démon et les autres qui crient au génie, on ne sait plus où donner de la tête. Pourtant, quand on regarde les notes, c'est le festival. 4,5 sur 5, 8 sur 10, 9 sur 10, 84 sur 100, 4 sur 5, 8,2 sur 10. Des notes dignes d'un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Mais Final Fantasy XV serait un chef-d'œuvre du jeu vidéo? Vraiment?
Donc là, tu parlais de Final Fantasy XV.
Yep.
On en discutait un petit peu en antenne. Finalement, mine de rien, est-ce que cette saga-là, c'est pas aussi une des premières sagas qui met aussi autant en avant des personnages féminins? Parce que, et on discutait à la même époque, il y a Tomb Raider qui arrive aussi avec bien sûr Lara Croft, qui elle aussi est une icône de la pop culture, qui aussi a droit à des films, plusieurs films. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la force, une des forces en tout cas de Final Fantasy, c'est d'avoir aussi autant d'icônes féminines ce qui est assez rare à l'époque.
Ouais, bah en fait, là, l'avantage énorme, enfin, cet avantage, pardon, je la refais. L'avantage de celui-là, c'est que, en fait, les jeux vidéo à l'époque, ils avaient un personnage féminin, mais ils en avaient un seul, parce que c'était la fille. Et en fait, celui-là, il a proposé plein d'archétypes.
Oui, c'était souvent très marqué, ouais, avec parfois même très cliché.
C'est ça, exactement. En fait, celui-là, ce qui est trop bien, c'est qu'il nous a pas proposé la fille, il nous a proposé plein de personnages féminins différents, des personnages secondaires et des personnages principaux, et elles ont vraiment un caractère complètement différent. Et il y en a même certains qui s'amusent des clichés, en fait. On peut avoir le personnage de Tifa, par exemple, qui est très belle, elle a des super proportions, etc. Et elle se bat avec ses poings et elle est plus forte que les autres personnages masculins. Et ça, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on voyait très souvent. Ouais.
C'était le cas pour toi aussi, Chloé. Il y avait une forme d'identification, en tout cas,
lointaine. Complètement. Et en fait, il y a deux personnages féminins qui prennent vraiment tout le, qui sont vraiment très mis en avant. Donc il y a Tifa, comme tu disais, et il y a également donc Aerys, qui est l'autre héroïne. Et en fait, elles sont radicalement différentes. Donc il y en a une qui est très très sexy, l'autre qui est habillée de manière, on va dire, beaucoup plus prude, un peu plus jeune fille des champs, on va dire. Ouais. Et en fait, leurs caractères sont radicalement opposés. En fait, le caractère ne correspond pas du tout au physique de ces personnages, ce qui est très bien vu. Et je trouve justement que dans le remake, donc qui est sorti une vingtaine d'années plus tard, ils ont très très bien retranscrit l'intérêt de ces personnages qui sont très forts. Et en fait, c'est marrant parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, quand j'ai fait le jeu la première fois, j'étais à fond pour Aerys. Et après, en refaisant le jeu 20 ans plus tard, j'ai dit non, mais en fait, non, Tifa, c'est quand même un personnage bien plus intéressant en fait.
Et moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on a un peu le cliché du triangle amoureux, tu vois, on a ces deux personnages féminins qui sont très forts et du coup le héros, enfin Cloud, il penche un peu d'un côté ou de l'autre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, alors je sais plus si c'était autant présent dans le jeu de base, mais dans le remake ils l'ont bien représenté, c'est qu'on n'a pas deux personnages féminins qui se détestent, alors que pourtant, comme tu l'as dit, voilà, leur personnalité fait que on s'attendrait à ce qu'elles se détestent et tout ça, et pas du tout. On a une amitié qui est super super douce et agréable entre les deux. Et pareil, ça vraiment c'était assez rare pour l'époque, parce que en général dans les jeux vidéo, il y a un personnage féminin, et quand elle voit un autre personnage féminin, elle se bat immédiatement pour essayer d'avoir l'attention du héros. Donc là, il n'y a pas du tout ça, et c'était super rafraîchissant aussi.
Donc c'est assez nuancé, en fait, finalement, pour l'époque. Là, on parle d'un remake qui arrive. Qu'est-ce qu'on attend d'un remake comme ça aujourd'hui? Évidemment, j'imagine une adaptation technologique, bien sûr, un jeu qui soit plus actuel, forcément. Est-ce qu'il y a aussi la peur, on sait à quel point les communautés de fans peuvent être extrêmement passionnées autour d'un jeu, donc il y a toujours le risque que le jeu qu'on trahisse l'esprit originel, etc. Qu'est-ce qu'on attend d'un remake comme ça, Chloé?
Ça a été un sacré pari pour eux, en fait, de sortir ce remake, parce que, bon, vu l'attente qu'il y avait, il y a aussi, comme vous disiez, le fait que, attention, c'est comme toucher à Mona Lisa. C'est comme toucher à la Joconde, il faut faire très très attention à ce qu'on fait si on a envie de la moderniser un petit peu. Donc, c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait des paris qui sont plutôt payants. Bon, déjà, ça reste spectaculaire, donc ça c'était un peu la promesse technologiquement. Ils ont refait le jeu de A à Z et ça en voit plein les yeux comme en 97, mais adapté à 2025. Et après, c'est vrai qu'ils étaient surtout attendus sur le scénario et à quel point est-ce qu'ils allaient changer des choses ou pas. Et effectivement, il y a des choses qui changent, mais il y a aussi énormément de clins d'œil pour... En fait, c'est un jeu qui parle aux fans. Et c'est vraiment, quand on est vraiment très très fan du jeu originel, le remake fait que on est très content, parce qu'effectivement...
C'est du fanservice.
Il y a du fanservice à gogo, en fait, dans ce remake. Et ça, là-dessus, c'est très très réussi, même si après, ils prennent des directions scénaristiques, on ne sait pas trop où on va aller, parce que ils ont fait le choix de ne pas suivre strictement l'histoire originelle. C'est un peu comme si on était dans un multivers, c'est la même histoire mais racontée un petit peu différemment, et si c'était passé ça en fait.
Alors, on parle d'un remake, et c'est quelque chose qui n'est pas propre à Final Fantasy. Dans le jeu vidéo, on a de plus en plus de remakes, un peu comme dans le cinéma d'ailleurs, qui sont des arts qui se regardent de toute façon de très près. Qu'est-ce que ça signifie, ça, le fait qu'il y ait autant de remakes? Est-ce que finalement, on discutait tout à l'heure, on parlait de Fortnite, on disait qu'aujourd'hui, un jeu marquant, si on demande à un jeune ou une jeune, ça va être Fortnite. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui, Nathalie, peut-être de créer, sans même parler de franchise, mais en tout cas des jeux qui sont aussi marquants qu'à l'époque, peut-être parce qu'on a une abondance de jeux justement, peut-être, enfin, en plus que les jeux généralement, j'ai l'impression qu'ils évoluent énormément aujourd'hui avec le fait d'être disponible en ligne. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de créer une marque qui met tout le monde d'accord et que du coup il y a une forme peut-être une tendance à se replier vers des titres du passé?
Bah ça, je pense que c'est pas tant la faute des créateurs de jeux vidéo que de l'industrie du jeu vidéo au sens large, parce qu'il faut voir qu'en ce moment l'industrie du jeu vidéo elle va pas très bien. Oui. Il y a beaucoup de renvois et tout, alors que pourtant l'industrie du jeu vidéo elle a jamais été autant rentable. Et ça, en fait, il faut le regarder du côté des investisseurs. Et c'est vrai que les investisseurs, bah eux, ils aiment ce qu'ils savent, ce qui va marcher. Ils veulent pas prendre de risques avec leur argent. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette mode des remakes, parce que bah ils se disent que c'est entre guillemets un pari sécurisé,
sûr, oui.
Voilà,
mmh.
Sûr. Mais c'est dommage parce que le jeu vidéo a quand même prouvé de très nombreuses fois que un jeu peut arriver, sortir de nulle part sans que personne y ait cru et devenir le succès, un succès fulgurant. Je pense à Stardew Valley, je pense à Undertale. On voit pas mal ça du côté des petits jeux indépendants, des petits jeux faits par une personne, développés pendant 10 ans dans un garage, qui deviennent des succès phénoménaux et qui ensuite lancent des modes qui font que tous les mêmes investisseurs vont créer des copies de ce jeu-là ensuite. Donc je sais pas si on peut dire que c'est difficile de créer sa marque, de créer une nouvelle patte et de s'imposer dans le milieu, parce qu'il y a des marques qui le font, il y a clairement des studios qui le font. Là, par exemple, je pense à Baldur's Gate 3 par Larian Studio, qui a été un succès mais monumental. Et le succès de Baldur's Gate 3, qui ont quand même repris... Alors oui, c'est une reprise de licence, mais eux, c'est pas un remake, c'est une suite, tu vois. Mais genre, c'est une suite d'un jeu qui était sorti il y a 20 ans. Genre Baldur's Gate 1 et 2, bon, peut-être pas 20 ans, mais quand même, très très longtemps. Et eux, ils sont arrivés en disant, bah nous, on va complètement faire une suite en la mettant au jour avec des nouveaux graphismes, un scénario ultra poussé. Et ça a extrêmement bien marché parce que bah, y avait une passion. Et surtout, le studio a eu la liberté de le faire. Ils ont eu des professionnels qui avaient déjà de l'expérience sur d'autres jeux. Donc je pense vraiment pas que c'est impossible. Je pense juste que malheureusement, y a des bâtons qui se mettent dans les roues des studios et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, quoi.
Un peu comme dans le cinéma, finalement.
Exactement.
C'est assez proche de ce qu'on
finalement,
dit
ouais.
du cinéma. Nous sommes avec Nathalie et Chloé Voitier pour discuter de Final Fantasy. Chloé, je ne sais pas si on peut parler de Final Fantasy, vous allez me dire, comme d'un jeu cyberpunk, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans l'esthétique, l'espèce de mélange entre technologie, fantasy, y a quelque chose, et même dans les thèmes abordés, évidemment, on parlait de l'écologie, y a quelque chose finalement d'assez avant-gardiste dans, à la fois, le visuel, même si évidemment, si on y joue aujourd'hui, c'est forcément daté, mais en tout cas, dans ce que le jeu propose à l'époque, mais aussi dans les thèmes qui sont abordés. Est-ce que, finalement, c'est un jeu qui est presque précurseur, je sais pas, mais en tout cas très avant-gardiste sur les thèmes qu'il propose?
En tout cas, c'est un jeu bien plus politique qu'il n'en a l'air. Parce qu'on commence, on est quand même éco-terroriste. Notre toute première mission, on commence le jeu, en fait, c'est juste pour faire exploser ce qui serait l'équivalent chez nous d'une centrale nucléaire. Parce qu'en fait, on est dans un monde où il y a une puissante corporation qui tient toute sa richesse et toute sa puissance du fait qu'elle extrait de la Terre une énergie. Voilà, qui s'appelle Énergie Mako, qui est génial parce que c'est une énergie qui permet d'apporter énormément d'énergie, justement, d'avoir engendré un progrès technologique incroyable. Mais bon, derrière, on comprend au fur et à mesure que c'est un prix très sérieux, à la fois pour les humains, mais également pour la planète en tant que telle. Donc voilà, on entend déjà le petit refrain écologique qui se met en place, et c'est vrai que bon, commencer un jeu en disant, en fait, on est au côté terroriste, on est recherché pour terrorisme, on va être poursuivi, en fait, pendant toute cette aventure par cette méga corporation qui, en fait, un peu comme dans le plein de thèmes de science-fiction, en fait, c'est une corporation tellement puissante qu'en fait, elle est la politique, elle a le pouvoir politique. Il y a un maire dans la grande capitale de ce monde qui, en fait, est juste fantoche. C'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le PDG de cette corporation. C'est vrai que là-dessus, quand on joue à ça, quand on a 10, 12 ans, on se rend pas forcément bien compte. Et c'est vrai qu'après, avec le recul, on dit « Ah ouais, quand même, il y a de la politique dans le jeu vidéo, hein, beaucoup, beaucoup.
» Alors, Nathalie, toi qui, entre autres, stream, crée du contenu, notamment sur Twitch, etc., comment tu perçois, alors je m'imagine que la communauté sur Twitch, elle n'est pas uniquement peuplée de jeunes, évidemment, mais il y a forcément aussi des jeunes qui te regardent, comment la marque Final Fantasy existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce que c'est un jeu dont la jeune génération s'empare, justement, ou est-ce que c'est plutôt un titre du passé pour les gens qui l'ont connu à l'époque.
Non, non, Final Fantasy, clairement, ça reste un monument du jeu vidéo, comme Pokémon, comme... c'est vrai que pour les jeunes qui sont vraiment à fond dans les jeux qui sont beaucoup plus compétitifs, que ce soit Fortnite, que ce soit League of Legends, etc., les jeux solo, c'est toujours difficile d'arriver à leur vendre ça, parce que c'est un peu à l'opposé de ce qu'ils peuvent jouer, mais malgré tout, c'est toujours un nom qui est connu. Et en plus, Square Enix, ils ont déjà fait des collaborations, il me semble, corrige-moi si je me trompe, ils ont fait une collaboration avec Fortnite, non ?
Oui,
il me semble que les personnages de Final Fantasy sont dans Fortnite. Donc, tu vois, il y a des ponts comme ça qui peuvent se créer, qui font que, bah, du coup, même pour les jeunes qui ne s'intéresseraient pas du tout à ce genre de jeu maintenant, il y a quand même de l'intérêt. Et oui, moi, de manière générale, je ne crois pas que j'ai déjà eu quelqu'un dans mon chat qui arrive et qui dit « Final Fantasy, jamais entendu parler ». Ça n'arrive pas. En général, les gens qui sont sur Twitch, c'est quand même des gens qui ont un tout petit peu une culture jeu vidéo. Oui. Et en fait, c'est quand même un nom, tu le connais autant que Pokémon. Même les parents qui ne jouent pas au jeu, tu leur dis Final Fantasy ou Pokémon, normalement, il y a un truc, ils font « Ah oui, jeu vidéo ». Voilà, c'est pareil sur Twitch.
Récemment, on a fait une émission ici autour du délire entre cinéma et jeux vidéo à l'occasion du film Tron Ares, le troisième volume de la saga Tron. Et c'est vrai qu'on discutait, on se disait, mais finalement, en tout cas, si on enlève les live action, il y a peu d'adaptations de jeux vidéo réussies au cinéma. Après, chacun a ses goûts, mais globalement, c'est pas une grande source de réussite. Est-ce que Final Fantasy pourrait, selon vous, être adapté avec succès au cinéma ? Je parle pas d'un dessin animé, etc., je parle vraiment d'un film en live action. Est-ce que c'est possible, Chloé ?
Alors, ce serait possible, ce serait compliqué, parce que ce sont des jeux à la fois très longs, donc c'est quand même des sacrés scénarios, qui souvent se déroulent, il y a quand même une dose de fantastique magique qui, je pense, en live action, est très difficile. C'est comme adapter un manga en live action. C'est comme ce que Netflix essaye de faire, par exemple avec One Piece, etc. C'est vrai qu'on se dit quand même... Ah, c'est peut-être pas une imagerie
qui
est
adaptée.
C'est pas le même langage, pas une imagerie qui est adaptée au fait qu'il y ait de véritables acteurs. Après, Square Enix avait tenté au début des années 2000 de faire un film Final Fantasy, là qui était du coup en image de synthèse, mais très réaliste, très sérieux. Ça a été un four monumental, ça a failli couler la boîte, là pour le coup, parce qu'ils avaient investi vraiment beaucoup sur ce film. Mais là, on voit quand même qu'il y a des motifs. Ou pourquoi pas, ça pourrait arriver. C'est vrai qu'il y a quand même des films adaptés de jeux vidéo qui, en ce moment, ont du succès. Donc, il y a les films Sonic, il y a le film Minecraft.
Mario.
Mario, le film Super Mario. Donc là, c'est du film d'animation 3D.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà, Mario, ça a été le plus grand succès de l'année quand il est sorti en 2024 ou 2023. Et donc, voilà, maintenant, en fait, les licences de jeux vidéo, tout le monde essaie de se jeter dessus en se disant « Mais je vais faire ma série, je vais faire mon film, je vais adapter ça. On a un matériau incroyable sous nos mains. Faisons-en quelque chose. » Alors, je ne sais pas si Square Enix va avoir envie de retourner là-dedans, sachant le four qu'ils ont déjà subi. Mais en tout cas, eux, de leur côté... Bon, on fait beaucoup de transmédia, des petits dessins animés promotionnels pour les nouveaux Final Fantasy notamment. Mais voilà, revenir sur un très très gros truc, je ne sais pas.
On espère en tout cas, on espère que ça puisse arriver un jour. Je propose qu'on écoute tout de suite Dracula de Tame Impala, extrait du dernier album de Tame Impala. Et puis juste après, nous aurons avec nous Naoki Hamaguchi, donc à la tête du jeu Final Fantasy. Et donc il va nous parler du remake, troisième volet, qui arrive.
Yeah.
On vient d'écouter le morceau Dracula de Tame Impala.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors, on est avec Naoki Hamaguchi. Merci énormément d'être là. Vous jouez un rôle très important, bien sûr, dans le prochain Final Fantasy VII qui arrivera sur Switch. Avant peut-être de parler de ce projet-là, vous êtes rentré chez Square Enix en 2006, au moment d'une grande transition pour le studio. Qu'est-ce que c'était pour un jeune développeur de rejoindre une maison aussi mythique ?
そうですね。まあ、もともとその私が、
je me souviens que j'avais été particulièrement excité et motivé lors de mon premier jour chez Square Enix, puisque le jeu vidéo qui m'a donné envie de devenir professionnel dans le milieu, c'était un jeu Square. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas Square Enix, ça s'appelait Square. Donc depuis l'enfance, j'aimais les jeux Square, donc rentrer dans cette société, ça m'a fait très plaisir.
On parle de Final Fantasy, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Quel est ton premier souvenir avec le jeu ?
Mon
premier souvenir, je dirais que la chose la plus importante qui me reste, ce serait Final Fantasy VI.
やっぱりその、あの当時こう、こうゲーム体験
À l'époque, mes expériences de jeu.
キャラクターをこう群像劇でこう非常にこうストーリー性があって
描いている。Qui présentait des personnages de manière aussi dramatique dans un RPG. Il n'y en avait pas à l'époque. Et donc c'est ce qui est resté le plus gravé dans mon cœur d'enfant
et
ce qui fait que c'est cette œuvre qui reste encore en moi aujourd'hui.
Alors là, tu viens de mentionner Final Fantasy VI. C'est vrai que en 1997, il y a Final Fantasy VII qui sort, qui est un jeu extrêmement culte. Justement, pourquoi ? Qu'est-ce qui explique le fait que le jeu, pardon, soit aussi culte, qu'on en parle encore autant aujourd'hui ?
結構こうファイナルファンタまあゲームですね。ゲームに限らず結構名作。
Ce que je pense c'est que déjà ce qui fait que Final Fantasy est culte et ça ne se limite pas aux jeux vidéo, c'est le fait qu'une œuvre arrive au bon moment et qu'elle raconte quelque chose qui correspond au changement d'époque à laquelle elle est lancée.
その当時やっぱりゲームがこうドット
Ce que je pense, c'est que ce qui fait que Final Fantasy VII reste gravé dans le cœur d'énormément de gens aujourd'hui, c'est que, pour le coup, Final Fantasy VII a été déjà un précurseur dans le sens où il était un jeu en 3D, à une époque où la majorité des jeux qui sortaient étaient des jeux en 2D. Et donc, comme le jeu sortait sur la nouvelle console qui était la PlayStation, qui proposait un jeu en 3D, donc ça a été un des jeux qui est sorti au moment où il y avait cette transition entre la 2D et la 3D d'une part. Et non seulement le jeu faisait la transition entre la 2D et la 3D, mais en plus de ça, il avait une histoire impactante et des personnages qui ont marqué parce qu'ils étaient écrits avec un déroulement de scénario qui était très dramatique. Et donc le fait que vous ajoutiez la performance technique à la puissance narrative du jeu a fait que aujourd'hui Final Fantasy VII est considéré comme une œuvre majeure.
Alors, justement, tu as parlé d'un jeu qui sort au bon moment, à la bonne période. Et dans ce jeu, il y a aussi une dimension écologique, voire même politique dans ce jeu. Est-ce que, justement, c'est aussi ça qui fait qu'il a eu autant d'impact à l'époque ? C'est au-delà du gameplay, ce que le jeu peut raconter ?
Ce que je ressens en tant que créateur, c'est que effectivement l'aspect écologique du jeu a pu jouer, mais ce n'est pas que ça Final Fantasy. Si vous allez dans le thème de Final Fantasy VII, vous verrez que à la base il s'agit d'une guerre pour la maîtrise des ressources, la ressource étant l'énergie vitale qui est symbolisée par ce qu'on appelle le live stream, et donc le jeu parle de l'inégalité entre les gens qui ont plus ou moins accès à cette ressource, et on voit que la distribution, la redistribution de ces ressources de manière inégalitaire fait qu'il y a des gens qui sont malheureux, et donc c'est une guerre pour la distribution de ces ressources, et donc pour le confort de vie et le bonheur des gens qui en sont plutôt la base. Et en sachant cela, on voit qu'effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait transposer dans le monde d'aujourd'hui, mais ça a été contextualisé dans une œuvre fantastique. Donc il ne faut pas oublier que Final Fantasy, c'est de la fantasy. Et donc du coup, même si ce sont des thèmes qui fonctionnent et qui résonnent avec les gens encore aujourd'hui, ce sont des thèmes qui sont utilisés pour du divertissement. Et donc le fait de retrouver ces thématiques dans du divertissement permet d'avoir sans doute une résonance vis-à-vis des gens qui vont jouer au jeu. Et justement, aujourd'hui, moi, en tant que responsable de ce remake, je me dis que le but, c'est aussi de garder ces thèmes principaux qui ont fait, enfin, qui sont l'une des forces du jeu original, et de l'actualiser pour le mettre au goût du jour et pour faire en sorte que ces thèmes qui sont toujours très actuels soient racontés, mais avec une technologie narrative qui est plus proche de ce qu'on attend aujourd'hui, 30 ans plus tard.
Alors, nous sommes avec Naoki Hamaguchi pour discuter de Final Fantasy.
À la régulière, sur France Inter, Mehdi Maizi.
Et justement, tu viens de discuter, enfin de mentionner ce remake, le remake de ce jeu culte. Comment justement on fait un remake d'une pièce aussi essentielle dans l'histoire du jeu vidéo? Est-ce qu'on a un peu la pression? Dans quelle mesure c'est excitant? Comment on aborde un tel projet?
まずこうなぜ Final Fantasy 7 をリメイクしたかっていうところで言うと、まあやっぱりこうまあ Final Fantasy のフランチャイズ。
Pourquoi Final Fantasy 7? Simplement parce que dans la grande saga des Final Fantasy, déjà le 7, c'est un de ceux qui est le plus populaire, dans le sens où on nous réclame régulièrement justement de le refaire. Et on a reçu beaucoup d'appels et de consultations de la part des fans qui disent qu'ils aimeraient bien y rejouer sous une autre forme. En plus de ça, Final Fantasy 7, ça a été le premier à avoir... à être décliné sous forme d'adaptation multimédia, d'avoir des œuvres, on va dire, spin-off. Et donc, en fait, Final Fantasy VII avait son propre univers à lui qu'on pouvait continuer à cultiver. Et c'est vrai que le jeu avait eu un tel impact culturel qu'on s'était dit que ça serait important de pouvoir permettre aux gens qui sont dans leur dizaine et dans leur vingtaine et qui n'ont justement pas pu jouer à Final Fantasy VII à l'époque où il est sorti, de découvrir ou redécouvrir ce grand classique, tout en proposant aux gens qui l'ont déjà connu à l'époque une nouvelle version qui est plus proche des codes narratifs d'aujourd'hui. Et si ça peut permettre justement à Final Fantasy VII de continuer à vivre encore 10 ans, 20 ans dans le futur et de permettre à des nouvelles personnes ensuite encore de découvrir cette œuvre, ce sera mission accomplie.
あとあのプレッシャーに関してはまあないといえばやっぱり嘘にはなると思います。
Alors si je vous répondais que je ne ressens aucune pression, ce serait faux bien évidemment. La pression, je l'ai évidemment, mais plus que de la pression, je ressens de l'excitation et de la joie. De par cette responsabilité de faire le nouveau Final Fantasy VII, dans la mesure où il ne faut pas oublier que j'ai été moi-même joueur de Final Fantasy VII, et à l'époque, donc, quand j'étais encore jeune et que j'ai découvert ce jeu, c'est un jeu qui m'a profondément séduit et dont je suis fan encore aujourd'hui. Donc en tant que fan de l'œuvre originale, j'ai beaucoup de fierté à me dire que j'ai la responsabilité de refaire le jeu avec les codes d'aujourd'hui. Donc bien que je ressente de la pression, je dirais que c'est quand même l'enthousiasme et la motivation qui sont les plus fortes.
Alors, on l'a dit, Final Fantasy, notamment Final Fantasy VII, c'est rentré complètement dans la pop culture. Il y a énormément de références au cinéma, dans la musique. Et je vous propose justement qu'on écoute un morceau qui référence très clairement Final Fantasy. C'est un morceau de Lil Uzi Vert. Le morceau s'appelle justement Final Fantasy. Et il y a plein de références au jeu dans le morceau. Je propose qu'on l'écoute tout de suite.
Shit, dude, whatever. Fuck it, Moses. Whatever. Final Fantasy. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can last with me. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this a trilogy. Final Fantasy, this not moon rock. Body smoking on my latest enemy. Final Fantasy, got the strategy. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can last with me. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this a trilogy. Final Fantasy, this not moon rock. Body smoking on my latest enemy. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this some new ice. Final Fantasy, change my religion just so I can have two eyes. Final Fantasy, that's an X spell. Final Fantasy, that's a sex spell. God is enemy, you not family. I still be out here catching wrecks still. I cannot live if we gotta go apart. Gotta fall back and really just know your part. Gotta watch out for demons and kingdom hearts. She can stand up. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can last with me. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this a trilogy. Final Fantasy, this not moon rock. Body smoking on my latest enemy. Final Fantasy, got the strategy. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can last with me. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this a trilogy. Final Fantasy, this not moon rock. Smoking on my latest enemy. Final Fantasy, got the strategy. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can stand up. Final Fantasy, she can last with me. Final Fantasy, this a new life. Final Fantasy, this a trilogy. Final Fantasy, this not moon rock. Body smoking on my latest enemy.
Final Fantasy, donc morceau de la superstar américaine Lil Uzi Vert.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Aujourd'hui, nous sommes avec Naoki Hamaguchi donc pour parler de Final Fantasy et notamment du remake de Final Fantasy VII qui arrivera. Alors, une question, c'est qu'aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, notamment de jeunes personnes, la jeune génération qui découvrent le jeu grâce aux streamers et aux streameuses, des personnes qui jouent au jeu des années après finalement. Comment est-ce que vous voyez aussi l'évolution du jeu vidéo qui aujourd'hui est très présent aussi sur des plateformes comme Twitch et qui, parfois, on a du rétro gaming sur des jeux qui sont joués par des gens de 10 ou 12 ans aujourd'hui qui n'étaient pas nés quand le jeu est sorti.
そうですね、確かに、まあ、私がこうファイナルファンタジー7のこうリメイクをこう出して
当然そのデジャイフォーサークシュパフェットモークワンクイヤデイヤデイストリーマーキーオジョルディデコーヴォルジュオリジナルアンディレクトエアビアンケジュソワレスポンサブルデュリメイクジュコンティニューアンテレセアラクチュアリティドルオリジナル
当然こうファイナルファン今回こう我々がこうファイナルファンタジー
et donc nous en tant que réalisateur du nouveau Final Fantasy VII ce qu'on fait c'est enfin notre ligne directrice c'est de garder un respect absolu pour l'original tout en essayant de l'étoffer. Et ce que je pense, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont mis à streamer l'original de Final Fantasy VII parce qu'ils voulaient voir la différence de traitement entre des moments de l'histoire et comparer entre ce qu'on a fait sur le remake et comment c'était présenté ou narré dans l'original. Donc évidemment, en tant que créateur, ça fait extrêmement plaisir parce que voir le simple fait qu'il y a des débats qui se font autour de Final Fantasy VII, est-ce que l'original est mieux, est-ce que c'est mieux dans le remake, est-ce que telle partie, et ça crée donc des débats qui sont très très enflammés et pour moi c'est très satisfaisant parce que ça prouve que du coup Final Fantasy VII en tant que qu'œuvre existe toujours, il suscite toujours les passions, il suscite toujours les discussions, donc ça veut dire qu'il est vivant, même si parfois effectivement les discussions sont un peu enflammées on va dire et que ça devient parfois énervé, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui me touche beaucoup.
Ça c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que le remake, c'est quelque chose qui existe au cinéma, dans les jeux vidéo. Et parfois, justement, la nostalgie que peuvent avoir les fans, est-ce que ça peut être un frein à la création? Parce que parfois, on peut avoir peur, justement, de ne pas froisser les fans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête aussi?
Je pense que c'est un point qui est très important quand on se demande si on va faire le remake de quelque chose ou pas. Et donc, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais il n'est pas question de remplacer, mais de vraiment reformuler ce qui a été déjà fait avec des moyens d'aujourd'hui en enrichissant, et on le fait avec énormément de respect pour l'œuvre originale. Et donc, on a pris une approche très, très particulière pour montrer aux gens qu'on respecter le scénario original, c'est que justement le parti pris de ce remake de Final Fantasy VII, c'est que l'histoire dévie par rapport à l'original, et que pour jouer avec ça, on a créé des créatures qui n'existaient pas dans l'original, qui s'appellent les fillers, qui sont des espèces de grandes silhouettes flottantes, qui sont là pour agir sur l'histoire et essayer de remettre l'histoire du remake sur les rails de l'original. Et donc, c'est au moment où les joueurs se disent « Tiens, mais c'est différent de ce que j'ai vécu dans le jeu original », ces créatures apparaissent pour remettre le jeu sur le droit chemin, enfin sur le chemin de l'original en tout cas, et c'est ce choix qu'on a fait pour que justement les joueurs ressentent le fait qu'on respecte énormément l'original, mais qu'on se permet quand même de surprendre le joueur qui connaît les deux versions. Évidemment, nous aurions pu choisir de faire un remake qui suive exactement la trame originale. Mais le but, c'était à la fois de surprendre agréablement les gens qui connaissaient déjà l'original pour pas qu'ils se disent qu'ils avaient déjà vu ça, et d'un autre côté, s'adapter aussi aux techniques narratives modernes qui jouent beaucoup avec ce style d'histoire pour s'adresser aux joueurs d'aujourd'hui, contemporain. Alors évidemment, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il fallait mieux respecter ou pas, et nous avons choisi d'aller dans cette direction. Alors je ne peux pas dire que c'était forcément le meilleur choix ou pas, mais ce que je vois, c'est que, pas seulement à Paris, mais quand je participe à des événements où on rencontre les communautés un peu partout dans le monde, je vois qu'à chaque fois, ce qu'on me dit, c'est « Ah, j'ai hâte que le troisième volet sorte, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ». Et c'est justement cette excitation qui me conforte dans l'idée qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, à savoir passionner les gens pour ce qui allait arriver ensuite.
Alors, bien sûr, il y a ce remake qui arrive qu'on attend, mais Final Fantasy VII, donc il sort en 1997, ça a vraiment créé une rupture dans l'histoire du jeu vidéo. Il est souvent cité comme étant le plus grand jeu vidéo de tous les temps. Donc la question est la suivante, est-ce que, selon toi, c'est le plus grand jeu vidéo de tous les temps, Final Fantasy VII ?
Alors déjà pour commencer, je me sens extrêmement fier et heureux d'avoir la responsabilité de faire le remake d'un jeu qui, comme vous dites, est l'un des jeux les plus aimés de tous les temps par les fans, et je sens effectivement que j'ai une grande responsabilité qui m'attend. Et après, il faut savoir aussi que, donc, évidemment, les communautés de fans sont très puissantes autour du jeu, mais l'une des particularités du jeu, c'est qu'il y a pas mal de personnages, et chacun de ces personnages est devenu culte et iconique, et il est très attendu, et chaque personnage a vraiment sa communauté de fans. On me demande très souvent dans les médias et dans les interviews, c'est qui votre personnage préféré. Et donc je décide de ne jamais répondre à cette question, justement. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur tel personnage est mieux que tel personnage, ou moi je suis sûr que tel personnage et tel personnage ils s'entendent bien, et moi je suis sûr que ces deux-là ils pourraient avoir une meilleure relation, etc. Et c'est des choses qui sont énormément débattues entre les fans. Et donc le fait que je sois obligé de faire très attention à ce que je dis pour pas créer de biais entre les joueurs, et donc de ne pas prendre parti pour tel ou tel personnage, ça montre à quel point les gens apprécient ce jeu et surtout à quel point les gens sont attachés à ces personnages. Et ça m'oblige à faire très attention, mais voilà, les gens aiment beaucoup les personnages de Final Fantasy VII.
Merci beaucoup Naoki Hamaguchi, merci pour votre temps aujourd'hui, pour ton temps, et merci évidemment à Grégoire Hello pour la traduction qui nous a permis d'avoir justement cette discussion patiente. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci également à Nathalie et Chloé Voitier d'être venues brillamment parler de Final Fantasy et de tout ce qu'il y a autour de cette saga. Une émission aujourd'hui préparée par Alix Alacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert et Juliette L'Orphelin. À la technique ce soir, c'était Gilles Gaillard et Arnaud Caillé. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.